Bonjour et merci d'être au rendez-vous du grand face-à-face de France Inter tous les samedis au sommaire jusqu'à 13h. Dans un instant, le retour sur la semaine avec le duel Natacha Polony-Gilles Finkelstein. Et puis le débat, dans quelle France vivons-nous? Et si pour décrire, pour comprendre notre société, il fallait rouvrir le musée des concepts et retrouver les grandes leçons du marxisme, et notamment celles sur l'affrontement des classes sociales. C'est ce qu'on trouve au cœur d'un livre qui vient de paraître aux éditions du Seuil et où on peut lire ces mots. La lutte des classes, c'est la France. Marx a certes étendu le concept à l'échelle planétaire, mais il ne faisait aucun doute pour lui que le lieu de naissance des luttes de classe moderne, c'était la France. Beaucoup plus que la chasse aux Arabes ou aux homosexuels, la lutte des classes est notre identité. Fermez les guillemets, c'est donc ce qu'on peut lire dans le dernier livre de l'anthropologue et démographe Emmanuel Todd, le titre « Les luttes de classe en France au XXIe siècle », un essai sous surveillance statistique mais dont les analyses de nombreuses formules suscitent la polémique et notamment son regard sur l'histoire récente, les gilets jaunes ou la présidence Macron. Rendez-vous avec Emmanuel Todd dans une vingtaine de minutes.
France Inter. Le grand face-à-face, Ali Badou.
Et le duel avec la directrice de Marianne, Natacha Polony, et le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Bonjour les amis.
Bonjour.
Heureux de vous retrouver et pour revenir sur la semaine, ce qu'on a appelé l'affaire Mila.
Dans une démocratie, la menace de mort est inacceptable. C'est absolument impossible, c'est quelque chose qui vient rompre avec le respect de, que l'on doit à l'autre. C'est impossible, c'est inacceptable. L'insulte à la religion, c'est évidemment une atteinte à la liberté de conscience, c'est grave, mais ça n'a pas à voir avec la menace.
L'insulte à la religion, une atteinte à la liberté de conscience, c'était mercredi sur Europe. La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, était interrogée donc sur l'affaire Mila, du nom de cette adolescente déscolarisée après avoir été menacée de mort en raison des propos hostiles à l'islam qu'elle avait tenus. Les propos de la garde des Sceaux ont déclenché un tollé, à droite comme à gauche. On l'accuse de réintroduire un délit de blasphème en France. Et puis, quelques heures plus tard, il y avait donc rétropédalage de la garde des Sceaux. Nicole Belloubet reconnaissait avoir eu une expression maladroite et lapidaire. Fermez le banc, Natacha, ou c'est plus grave que ça?
Non, non, parce que l'expression n'était pas du tout lapidaire, elle était totalement stupide et elle révélait non seulement une incompétence absolument crasse de la part de la ministre, mais surtout une conception de ce qu'est la laïcité qui me semble profondément inquiétante parce que révélatrice. Mais je pense que tout en fait, dans cette affaire Mila, est absolument ahurissant, parce que la sortie de la ministre de la Justice ne vient qu'à la fin de toute une série de faits qui sont totalement dingues. Cette gamine, c'est une gamine de 16 ans hein, dont
oui,
on parle, une gamine de 16
une
ans,
adolescente.
Qui s'est fait agresser sur les réseaux sociaux parce qu'elle est lesbienne, qui s'est fait insulter et qui a répondu à des jeunes gens qui lui disaient « tu es une insulte à notre religion », etc. En, non pas en critiquant l'islam, mais en confiant l'islam, elle a confié la religion avec une grossièreté évidemment excessive, sauf qu'elle ne parlait que de la religion. Et c'est très très clair dans ses propos. Or, premier point, donc on a effacé le fait qu'elle ne faisait que répondre à des agressions homophobes. Ensuite, on a eu un silence absolument ahurissant des politiques face à des faits de menaces de mort sur une jeune fille de 16 ans. Ensuite, on a le délégué général du CFCM, du Conseil français du culte musulman, qui réagit à cela en répondant « elle n'a que ce qu'elle mérite, qui sème le vent récolte la tempête », ce qui est totalement dingue. On parle donc de menaces de mort sur une gamine de 16 ans.
Là, vous parlez des déclarations d'Abdallah Zekri, le délégué
Exactement.
Général du Conseil français du culte musulman.
Voilà. Donc, on a là, un retour du refoulé qui est quand même profondément inquiétant de la part de quelqu'un qui est censé porter une parole apaisée et représentative sur l'islam. Et enfin, on a donc au bout de tout cela, la plainte, non seulement contre ceux qui ont menacé de mort Mila, mais aussi une plainte contre Mila elle-même pour vérifier si des fois il n'y aurait pas une incitation à la haine dans ses propos. Donc, tout est totalement dingue dans cette histoire et démontre que nous ne savons absolument plus ce que c'est, non pas que le droit au blasphème, parce que c'est pas le droit au blasphème, c'est le fait que le blasphème n'existe pas, ce qui n'est pas la même chose. Ça n'existe pas parce que c'est un concept religieux et que nous sommes dans une société laïque, dans un pays laïque, et que donc n'importe qui a le droit d'insulter une religion s'il est non-croyant.
Gilles Finkelstein.
Je suis embarrassé, je suis assez largement d'accord avec Natacha. Ce qui, je crois, peut néanmoins être utile, c'est deux choses. La première, c'est d'essayer de hiérarchiser. C'est-à-dire, ce que dit Mila peut être critiqué. Parce que c'est grossier, c'est outrancier, voilà, c'est indigent. Très bien. Mais les réactions que cela a provoquées, notamment le cyberharcèlement, les menaces de mort, les propos que vous évoquez du délégué général du CFSM, ne doivent pas être acceptés. Donc, il y a des fausses équivalences. On ne doit pas renvoyer dos à dos l'un et l'autre. Il faut hiérarchiser ces indignations et les faux équilibres sont des vraies lâchetés. Donc ça, c'est la première chose.
Oui.
Deuxième chose, je crois qu'il faut distinguer une nouvelle fois. Attaquer les religions, oui, c'est quelque chose qui est possible, qui est permis dans notre pays. Attaquer les personnes, ça ne l'est pas. Et donc c'est la raison pour laquelle il y a quelque temps, lorsque nous débattions du concept d'islamophobie, on disait c'est un concept qui est ambigu et il faut lui préférer, ce que je disais en tout cas, les actes anti-musulmans que l'islamophobie. Donc on est à nouveau dans la même chose et c'est cette distinction qui n'a pas été faite ni par la garde des Sceaux dans la déclaration que vous avez passée, ni par le parquet qui a ouvert cette enquête. Et puis, dernier point, ça oblige quand même aussi à réfléchir une nouvelle fois sur les réseaux sociaux et leurs conséquences sur chacun. La vie de cette gamine, en tout cas pour un temps, est profondément affectée. Et puis, sur nos intolérances, on ne supporte plus n'importe quelle critique, et ça, c'est vrai à peu près de tous, et c'est une déviation, je crois, inquiétante de notre débat.
Natacha.
Un dernier renseignement sur cette affaire, c'est qu'immédiatement surgit, comme à chaque fois, la concurrence des victimes, la concurrence des accusations et des indignations, et là aussi, c'est très dangereux. Premier point, un humoriste de France Inter a fait, il y a peu, une chanson dans laquelle il était là aussi particulièrement grossier vis-à-vis de Jésus, qui lui a valu lui aussi des menaces de mort. Donc,
mais c'était un exercice d'humour.
C'était un exercice d'humour, mais que ce soit un exercice d'humour ou pas d'humour, on a le droit. On peut considérer que c'est de mauvais goût, mais on a le droit. Autre concurrence victimaire, c'est qu'on a entendu immédiatement des gens qui justifiaient les attaques contre Mila en disant « mais ce qu'elle dit sur l'islam, personne ne le dirait sur les juifs ». Sauf que, justement, c'est toute la différence. Elle le dit sur l'islam, pas sur les musulmans. Et ceux qui accusent disent on n'a pas le droit de le dire sur les juifs. Parce que jamais on entend moquer le judaïsme en tant que religion. C'est bien la différence entre l'antijudaïsme et l'antisémitisme. On a totalement, ça ne pose aucun problème à personne de dire j'emmerde Moïse, David, les prophètes. Si c'était ça qu'on disait sur le judaïsme, ça ne poserait en effet aucun problème. Mais curieusement, là, ça n'arrive jamais. C'est plutôt sur les juifs en tant que personnes qu'on s'acharne. Et là, ça s'appelle de l'antisémitisme. Donc là aussi, il faut bien distinguer les choses.
Gilles, il y a malgré tout des critiques qui ont été formulées au Parti Socialiste qui n'auraient pas pris position suffisamment clairement, suffisamment rapidement pour soutenir Mila.
Oui, j'ai vu ça. Et pour le coup, je trouve que ces critiques ne sont pas justifiées. Bernard Cazeneuve, qui n'est pas un responsable du Parti Socialiste, mais qui est ancien Premier ministre, l'a fait. Et Olivier Faure l'a fait également sur le même type de sujet. Il y a quelque temps, il avait été aussi clair. Donc, je trouve qu'il y a des procès parfois qui peuvent être justifiés. En l'espèce, ce n'est pas le cas.
France Inter, le grand face-à-face, le duel.
Aujourd'hui, Matteo Salvini a perdu les élections. Je crois que la majorité en ressort plus forte. Et je crois que nous devons dire un immense merci au mouvement des Sardines qui a participé et a aidé la démocratie italienne à être plus forte.
C'était dimanche dernier en Italie. Vous venez d'entendre Nicola Zingaretti, qui est le secrétaire du Parti démocrate, et il saluait la victoire de son parti contre l'extrême droite dans la région d'Émilie-Romagne, cette région qui est un bastion historique de l'Italie rouge. Matteo Salvini en avait rêvé, il s'était mis au défi de l'emporter. Et c'est une défaite, Gilles, sur laquelle vous vouliez revenir. C'est une défaite parce que c'est un premier revers pour la Ligue, ou est-ce que ça peut dire d'autres choses qui concerneraient, au-delà de l'Émilie-Romagne, et l'Italie et l'Europe?
Oui, c'est la première vraie défaite électorale de Matteo Salvini. Il a eu une première défaite parlementaire lorsqu'il a fait exploser la coalition en espérant provoquer des élections et les emporter. Mais là, c'est la première victoire, c'est la première défaite électorale. Ce qui est intéressant, c'est que rien n'était acquis loin de là. Si on se remet quelques jours en arrière, la victoire du Parti démocrate, la défaite de la Ligue n'était pas acquise. Il faut se souvenir qu'il y a un an à peine, aux élections européennes, la Ligue était arrivée en tête, 2 points devant le Parti démocrate, que depuis lors, elle a progressé, elle a conquis une des principales villes d'Émilie-Romagne, qui est Ferrare, que Matteo Salvini s'était engagé de manière totale dans cette campagne et qu'il avait fini par pronostiquer non pas une victoire, mais un triomphe. Et donc, oui, personne ne pariait là-dessus. Les résultats ont été nets. Donc, je crois que ce qui est positif, c'est cette défaite de Matteo Salvini, c'est qu'on retrouve une lisibilité au débat public. Parce que l'autre élément qui est intéressant est l'affaissement total du mouvement 5 étoiles. Il est né en Émilie-Romagne. D'une certaine manière, peut-être qu'il y est mort, pris par ses contradictions à la fois politiques et stratégiques. Et puis, si je peux ajouter un dernier point, ce qui me paraît intéressant, c'est que c'est une illustration que l'ascension de Matteo Salvini, l'ascension de la Ligue, l'ascension de l'extrême droite est résistible. Pour cela, il faut un bilan, et en l'occurrence, le président sortant du Parti démocrate avait un bon bilan. Il faut une mobilisation politique. Il y a eu celle du Parti démocrate et il y a eu celle de la société civile avec les sardines.
Natacha Polony.
Alors, j'apporterai tout de même une nuance, parce que même si, en effet, c'est la marque du fait que un mouvement populiste tel que la Ligue peut ne pas progresser indéfiniment jusqu'à la victoire, et je pense en effet que c'est extrêmement intéressant, en revanche, nuançons. C'est-à-dire que la Ligue fait tout de même un score qui est un score extrêmement important dans une région qui est une région traditionnellement
un bastion
de gauche,
historique de la gauche.
Un bastion de la gauche. Et même si la Ligue ne gagne pas, elle marque quand même une progression. Mais surtout, elle a sans doute perdu justement parce que Matteo Salvini en a fait un symbole. Et c'est cela qui est à la fois intéressant et inquiétant. C'est que c'est parce qu'il a totalement hypertrophié l'enjeu de ce scrutin qu'on a vu un soulèvement en face et que sans doute des gens qui ne seraient pas allés voter pour le Parti démocrate ou pour le mouvement 5 étoiles se sont mobilisés. Alors bien sûr, ce mouvement de la société civile, ce mouvement des sardines, là aussi est extrêmement intéressant, même dans sa façon de fonctionner, qui est assez pour l'instant difficile à définir. Mais malgré tout, attention à une chose, ce n'est pas parce que ce scrutin-là est perdu pour Matteo Salvini qu'il n'y a pas des mouvements de fond qui risquent de ressurgir.
Gilles,
oui. Alors oui, c'est
Est-ce
vrai.
Qu'on peut tirer une leçon européenne de ce scrutin ?
Une leçon européenne, je n'en sais rien.
On a vu l'extrême droite perdre des positions en Autriche, par exemple.
Oui.
Là, maintenant, en Italie.
C'est une illustration supplémentaire. Il y en a d'autres que cette ascension est résistible. En revanche, Natacha Polony, je crois, a raison de dire que rien n'est acquis. Rien n'est acquis parce que le score en Émilie-Romagne, malgré tout, est important. Le score de la Ligue est, on l'oublie, le score d'un parti qui est encore plus à l'extrême droite que la Ligue, qui s'appelle Frères d'Italie, et qui fait 8% aussi, en plus des 32% de la Ligue, parce qu'on était dans une région qui est très à gauche, parce que, après, si on se place au niveau national, le gouvernement reste impopulaire, la situation reste difficile. Bon, il y a des élections, une série d'élections régionales dans quelques mois, notamment en Toscane, qui est l'autre région rouge qui va être observée de près. Ça oblige le Parti démocrate à bouger, à retrouver de l'unité, à retrouver du leadership, mais c'est quelque chose de positif, avec pour la première fois un débat interne à la Ligue, avec une contestation de la stratégie de l'omniprésence et des excès de Matteo Salvini.
Le duel continue.
Le grand face-à-face sur France Inter.
Dans le monde des affaires, quand j'avais une négociation un peu dure, on disait « Mais c'est plus compliqué que les discussions entre Israéliens et Palestiniens. » Mais ce n'est pas vrai. Il n'y a rien de plus difficile que cet accord-là.
Mon plan est une opération gagnant-gagnant. Une opportunité pour les deux parties. Ma vision, c'est que Jérusalem reste la capitale indivisible d'Israël. Très important, capitale indivisible.
Jérusalem n'est pas à vendre. Les droits des Palestiniens non plus. Ils ne sont pas négociables. Et ce plan, cette conspiration, ne passera pas.
Donald Trump d'abord et puis le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. C'était mardi à Washington. Trump présentait son plan de paix pour le Proche-Orient et le président américain le qualifiait donc d'historique. Il a été pourtant perçu comme l'affront du siècle par le président de l'autorité palestinienne. Jérusalem n'est pas à vendre, a-t-il répondu au président américain. Quelle analyse faites-vous, Natacha, de ce plan de paix dont on se demande s'il a un avenir ou s'il est crédible tout simplement?
Il y a, je pense, deux dimensions à ce plan de paix. Il y a la dimension purement tactique de la part de Donald Trump et Benjamin Netanyahou, qui sont tous les deux frappés par, disons, en politique intérieure, par des difficultés pour, du côté de Trump, sa réélection dans un contexte d'impeachment. Pour Netanyahou, ces problèmes de corruption. Et je pense que ce plan arrive à point nommé pour tous les deux les renforcer et les rasseoir. On a très bien vu comment Benjamin Netanyahou a immédiatement saisi la main qui était tendue pour expliquer que bien sûr Israël allait appliquer ce plan et donc s'imposer partout et annexer les territoires palestiniens. Mais derrière, il y a quelque chose qui est de plus long terme. On sait très bien que ce plan est travaillé depuis des mois par Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, et on voyait venir ce qui allait arriver. Pourquoi? Parce que c'est le fruit de ce renversement d'alliance qui a été opéré dès le départ par Donald Trump et qui a construit une trilogie entre les États-Unis, Israël et l'Arabie Saoudite. Et on voyait très bien que l'Arabie Saoudite avait totalement abandonné les Palestiniens et jouait en fait l'écrasement des Palestiniens. C'est-à-dire que là, en gros, ce n'est absolument pas un deal, c'est le fait que on les assomme et c'est une victoire par chaos. Ils ne pourront pas dire non parce que de toute façon, ils n'ont plus de protecteur, ils n'ont plus rien. C'est cela que joue Donald Trump et qui me semble peut-être gagnant dans l'immédiat, mais à long terme extrêmement dangereux.
Gilles ? Oui, qu'il y ait une dimension tactique des deux côtés, ça ne fait pas le moindre doute. Est-ce que ce plan peut être un point d'arrivée ? Personne ne peut le penser. Il n'a pas été négocié, il a été imposé par les États-Unis. Il n'est pas équilibré le mois du monde. Je lisais un éditorialiste qui parlait d'une offre carthaginoise, c'est-à-dire l'offre que font les vainqueurs aux vaincus. C'est un peu ça. Donc, ce n'est pas un point d'arrivée. Je ne suis même pas sûr que ça puisse être un point de départ, tant les différents acteurs sont aujourd'hui dans une situation de faiblesse. Il a quand même deux mérites. Le premier mérite, c'est d'exister. C'est-à-dire de replacer à l'agenda la question de la paix entre Israéliens et Palestiniens, alors que la réalité...
Même si c'est une Pax Americana.
Alors que la réalité est qu'aujourd'hui, on peut le regretter, mais tout le monde se fout des Palestiniens. À cause de leur division, de la corruption, de la radicalisation, y compris les pays arabes et les pays musulmans. Donc ça a au moins ce mérite de replacer ça. Et puis ça a un deuxième mérite, au moins implicite, c'est que on reconnaît, et quand je dis « on », les républicains, Trump, Netanyahou reconnaissent la perspective d'un État palestinien. Ce n'était pas si évident
impossible
de leur part. Évidemment, on leur rend impossible, mais c'est une perspective qui est possible. De leur part, ce n'est pas rien du tout.
France Inter, le grand face-à-face, le duel.